Ce sera tout pour mes aventures dans l'Ouest. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je viens de perdre un autre enfant, et je ne sais pas quand ni comment je vais récupérer les autres. Il va falloir imaginer une stratégie. Nous sommes loin d'être arrivés à Chicago, et la route sera parsemée d'embûches. Mais Chance, comme il dit, est plein de ressources, et j'ai appris, moi aussi, à me tirer d'embarras. May Dodd, bien vivante, le 12 novembre 1876, sur une rive de la Tongue River, territoire du Montana. Dernier mot des journaux perdus de May Dodd. Première partie. Le départ. Ten City, territoire du Wyoming. Début décembre 1876. Être décédé présente certains avantages, ou plus exactement, être présumé disparu. On se donne le luxe de parcourir le monde comme un fantôme, invisible, anonyme, telle une toile vierge sur laquelle créer un personnage entièrement nouveau. Certes, des gens que l'on a fréquentés peuvent vous reconnaître, ou peut-être leur rappellerez-vous vaguement quelqu'un si votre apparence a changé. En ce qui me concerne, j'en suis venue à penser que le jour où frère Anthony m'a trouvée dans la grotte et constaté mon décès, j'étais réellement morte. Puis que Woman Who Moves Against the Wind, mon ange gardien Cheyenne, m'a vraiment ressuscitée grâce aux soins qu'elle m'a prodigués et à ses pouvoirs occultes. Lorsqu'on vit un certain temps chez les Indiens, on finit par croire à quantité de choses improbables. Il y a quelques semaines, j'ai perdu la notion du temps et n'ai plus de calendrier pour m'aider. Mon amant Chance et moi avons quitté le village d'hiver de Little Wolf en compagnie de nos amis Lady Annall et Martha Atwood, ainsi que Little Tanglehair, le bébé de celle-ci. Au cœur de la saison froide, les arbres sont dénudés. La température glaciale et la neige tombent en rafale dans les plaines. Ce n'est pas du tout le moment de voyager, mais il était nécessaire que nous partions. Heureusement, nos familles Cheyenne nous ont fourni des couvertures de la Hudson Bay Company et d'épaisses peaux de bison pour nous en mitoufler, ainsi que des toques de fourrure pour nous couvrir les oreilles, faute de quoi nous gèlerions la nuit. Pendant les tempêtes, nous devons nous serrer dans les tentes rudimentaires que Chance a confectionnées au village, au moyen de toiles et de branches de saule. Au moins nous protège-t-elle des tourbillons de neige. Nous essayons de dormir dans les ravines qui nous mettent à l'abri du vent. Chance monte Lightning, son Appaloosa. Moi, ma jument alezane, Lucky. Et Martha se partage entre son âne d'Apple et l'un de ses deux chevaux de guerre préférés, un beau palomino qui répond au nom de Sunrise. Elle a offert l'autre à sa famille Cheyenne avant notre départ. Anne a adopté un alezan de la prairie, particulièrement haut sur jambes, qui s'appelle Champion, et qu'elle a choisi car il lui rappelle les sauteurs pur sang avec lesquels on chasse le renard dans son pays natal. Nous projetons de céder nos bêtes à Laramie, ce qui nous permettra d'acheter des billets de train et de subvenir quelque temps à nos besoins sur place et lors de notre arrivée à Chicago. La fin de notre voyage demeure une grande inconnue. Nous ne pouvons rien anticiper. Chance et moi avons un peu d'argent, lui ce qui lui reste de ses émoluments de cow-boy lorsqu'il accompagnait une transhumance vers le nord, moi de mes gains de vendeuse de chevaux. Cela ne nous mènera tout de même pas loin. Lady Anne a juste de quoi se rendre à New York, où sa banque londonienne a transféré des fonds, suffisamment pour couvrir les frais de sa traversée de l'Atlantique. Généreusement, elle nous propose de garder son cheval lorsque nous la quitterons à Medicine Bow, où elle prendra le train vers l'Est. Nous le vendrons ensuite à Laramie avec les nôtres. Nous campons pour l'instant aux abords de Ten City, le village naissant des colons au pied des Bighorn Mountains, où Wind et moi avions cédé quelques-uns de nos chevaux il y a bien des mois aux écuries Bartlett & Sons. J'avais également acheté là des fournitures et ma tenue de femme de l'Ouest. Bien que l'on y construise de vraies maisons, l'endroit mérite tout à fait son nom de tente, autour desquelles il prend un nouvel essor. La température s'est adoucie et le soleil d'hiver ressuscite un peu de chaleur bienvenue. J'ai arrêté depuis longtemps de tresser mes cheveux comme les indiennes. Je les porte à présent noués sous ma toque ou mon chapeau de cow-boy. Martha m'a proposé de les couper très courts quand nous serons à Laramie pour que je change d'allure. Je ne suis cependant plus la May d'autrefois. Quand je regarde mon image dans le miroir que j'avais trouvé à Ten City lors d'un précédent séjour, je vois une étrangère au visage parcheminé, trop ridée pour son âge. Elle m'examine d'un air perplexe, comme si elle ne me reconnaissait pas. Mon pénible séjour à l'asile, les multiples privations auprès des Cheyennes, l'exposition constante de ma peau claire au soleil et aux éléments, sans oublier ma mort et ma renaissance au fond d'une grotte. Tout cela m'a radicalement transformée. En 2 ans seulement, j'ai vieilli d'une décennie au moins, comme Martha, ce que je me garde bien de lui dire, naturellement. Pour qu'elle ne se présente pas à Laramie sous l'apparence d'une squaw, avec ses jambières et ses mocassins, elle n'a rien d'autre sous la main. Je lui ai prêté mes habits de blanche afin qu'elle aille en ville, en compagnie de Chance et Dan, acheter de quoi s'habiller. Je leur ai donné un peu d'argent et leur ai indiqué où se trouvent les commerces. De fait, nous n'avons pas grand-chose pour nous vêtir dans le monde des Blancs. Je reste en attendant dans notre petit camp. Je veille sur Little Tangler et nos bêtes, et j'ai remis mes habits indiens que j'emporterai à Chicago en guise de souvenir. Quelle merveilleuse liberté de mouvement l'on éprouve dans ces peaux de daim. Je n'ai aucune envie d'enfiler les longues robes que nous portions lors de notre arrivée chez les Cheyennes, encore moins ces corsets qui nous bridaient comme des volailles. Mon Dieu, serais-je jamais capable de m'y réhabituer? Bizarrement, j'éprouve des regrets à l'idée de quitter le dur pays qui nous a adoptés. Martha a d'assez grands pieds pour une femme. Je lui ai recommandé de passer chez le cordonnier pour voir s'il n'aurait pas une paire de bottes de cheval de seconde main, comme en portent les cow-boys du Texas, inspirées de celles des vaqueros mexicains. Et, tant qu'elle y est, de se choisir un chapeau à large bord, comme le mien. J'ai prié Chance de me trouver, si possible, des registres et de me faire provision de crayons. J'ai arraché une page blanche de celui que j'ai laissé à la tribu. Elle est déjà remplie au point d'être illisible. Et ma dernière mine n'est plus qu'un petit bout de bois, longue d'à peine 1 pouce. Les filles se moquent de moi parce que je n'arrête pas de griffonner dans mes carnets. Certes, j'ai l'impression qu'il me manque un membre quand je ne peux pas coucher les événements sur le papier, aussi anodin soit-il. Curieusement, ne pas écrire autant que je le voudrais m'a empêché de faire mon deuil de Ren, ma fille bien-aimée, que j'ai été obligée de confier à la famille de Little Wolf. Je n'évoque jamais mon chagrin devant les autres, alors j'essaie de me consoler en racontant mes malheurs dans l'intimité de mes journaux. Je m'attendais à ce qu'il y ait un pasteur à Ten City pour nous marier, Chance et moi, mais il m'a appris à son retour que la petite ville ne compte pour l'instant que de nombreux saloons, construits à la hâte, et plus encore de personnages louches qui s'y enivrent. Ils se tirent dessus dans les rues puisqu'il manque encore un shérif pour faire respecter un minimum d'ordre. Chance pense que ce n'est pas le bon endroit pour officialiser un mariage, et il a sûrement raison. Nous attendrons de gagner Fort Laramie, où se trouvera bien un juge de paix pour nous unir et nous fournir le certificat utile. J'ai longtemps réfléchi à la question, et, de toute évidence, il convient que je sois remariée à un blanc pour aborder une nouvelle vie dans la ville qui m'a vu naître, Chicago. Même sous une autre identité, je risque d'y être reconnue, et, si mon père a vent de ma présence, il s'arrangera pour me renvoyer à l'asile. Alors j'espère que mon statut de femme mariée l'en empêchera, et j'ai de toute façon Chance, mon loyal compagnon, pour me protéger. Cela dit, mon père exerce une influence considérable sur la haute société locale, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas de Chance. D'un autre côté, j'ai de quoi faire scandale en révélant mon histoire. Mais qui y croira? On y verrait que les divagations d'une folle, et mon aimable géniteur aurait dans ce cas une raison supplémentaire de me faire enfermer, que Chance soit d'accord ou non. J'ai donc décidé de revenir incognito, sous les traits d'une personne différente, ce que je suis d'ailleurs.